Et Ray Lalonde est avec nous ce matin pour parler d'abord de l'annulation qui va être confirmée un peu plus tard là, du Grand Prix de Formule 1.
Ouais, 11h30 ce matin, conférence de presse, il y aura le ministre Fitzgibbon, Mélanie Joly, Valérie Plante, la ministre Proulx également du tourisme, ainsi que François Dumontier, le promoteur du Grand Prix du Canada. On va annuler qu'il n'y en aura pas cette année pour une deuxième année consécutive, mais que les deux années perdues seront reprises à la fin du contrat. En 2030-2031, on ajoute deux années supplémentaires au contrat en vigueur pour compenser là, la perte de cette année l'an dernier.
Bon, Ray est avec nous. D'abord, bonjour.
Salut Paul, salut Alain.
Tu penses quoi de ça?
Ben, je pense que c'était prévisible. Il n'y a pas d'autre alternative, Paul. Regarde, la santé publique doit prendre le temps nécessaire. Donc, il était coincé. On est à quelques semaines seulement. Il y a un Grand Prix à Azerbaïdjan la semaine avant. Compliqué, là. Fait qu'il n'avait pas d'alternative, mais je suis content de confirmer. On a parlé en ondes, nous trois, là, concernant l'avenir. Il n'y a pas de risque pour l'avenir. C'est dommage. Tu sais, quand tu as un événement sportif que tu gères, qui occupe 3 jours dans une année sur 365, mettons que c'est risqué. Il peut avoir de la pluie, du mauvais temps, des conditions infernales et une force majeure. Fait que là, c'est malheureux pour le Grand Prix parce que c'est un événement critique important qui rayonne sur le Canada au complet. Et c'est certainement un événement stratégique pour la F1 parce qu'il quitte l'Azerbaïdjan puis retourne en France 2 semaines après. Le Canada était un stop, si on veut, un arrêt obligatoire mais essentiel dans la stratégie de mise en marché de la F1. Puis là, ils perdent. Alors, c'est dommage, mais tu sais, je suis rassuré puis je m'inquiète pas pour l'avenir. Ça compromet pas l'avenir de la F1 puis la santé de la F1 à Montréal.
Mais est-ce que tu sens un changement de ton chez les dirigeants de la F1, là? Si on compare à l'extrémiste Bernie Ecclestone, là, qui aurait quoi sauter là-dessus pour menacer de prendre le Grand Prix puis de l'amener ailleurs, probablement?
Oui,
là?
C'est un très bon point, parce que Liberty Media n'agit pas comme Bernie Ecclestone, quoique ils ont quand même trouvé une façon d'essayer d'avoir un peu d'argent là, pour compenser récemment. Mais c'est une entreprise américaine qui est gérée différemment, avec une philosophie puis une culture de croissance. Ça inclut l'Amérique du Nord. On parle déjà d'un Grand Prix à Miami l'an prochain ou l'année suivante pour complémenter celui d'Austin au Texas. Ça veut dire qu'ils doivent s'investir en Amérique s'ils veulent conquérir ce marché sportif-là. Tu sais, c'est une drôle de business, la F1, Paul. Ils sont dans 23 villes, partout sur la planète, puis ils n'arrivent toujours pas facilement là à conquérir le marché de sport, puis de marketing, puis de divertissement US et Canada.
Comment t'expliques ça qu'aux États-Unis, ça n'a pas vraiment décollé?
Ben, il y a toutes sortes de raisons. Les Américains sont très traditionnels dans le sport automobile. Ils adorent le sport automobile.
NASCAR. C'est pas raffiné pour les Américains, je trouve.
Non, mais c'est parce que, oui, dans le sens que c'est un sport plus sophistiqué, si on veut, Alain, là. Mais ils aiment ça, la course automobile, la vitesse, les gros bolides. C'est juste que ça a été mal mis en marché depuis des années. Ça s'est pas rapproché des besoins de la clientèle américaine qui regarde ça comme un événement, une semaine, une destination, un peu comme un Super Bowl. Là. Tu sais, tu vas là, tu passes 3, 4, 5 jours ensemble. Pis... Alors, les Américains ont pas saisi ça, puis la F1 s'en est... l'a banalisé un petit peu.
Mais Ray, c'est le NASCAR là, qui est le plus populaire aux États-Unis. Là, même l'Atlantique, puis ça perd des plumes.
NASCAR aussi.
Mais NASCAR, là, tu sais, c'est essentiellement Deep South, là. C'est ça qui... tu sais, tu regardes où ont lieu les courses, là. C'est dans le sud profond des États-Unis.
C'est vrai. Dans des pistes traditionnelles, effectivement, ça prend les installations, parce que NASCAR, c'est une grosse course. Puis l'autre chose que j'ai pas mentionné, les courses sur pistes ovales, ou dans ce genre-là, te permettent d'avoir une meilleure vision de l'ensemble de la course. La F1, pas simple. C'est pas facile comme consommateur sur place, Paul et Alain. Là. Puis, tu sais, vous êtes allés, je suis allé, là, on a tout vu, c'est impressionnant, c'est incroyable.
Mais c'est comme le golf, c'est mieux de le regarder à
la
TV.
Ben oui, puis c'est même pas une question, ça. La qualité de la télé est tellement meilleure parce que tu peux suivre ce qui se passe partout. Sur place, c'est pas si hot que ça, si vous me permettez. Tandis que les Américains aiment ça voir le dénouement devant leurs yeux. À tour de bras, ça roule. C'est un peu répétitif, mais au moins, on voit les voitures se dépasser, puis ça rajoute un peu à l'énergie puis au dynamisme de la course.
Bon, passons à l'autre sujet, qui est cette nouvelle entente entre Turner et la Ligue nationale de hockey pour les droits là, de télé, les droits médias pour les 7 prochaines années.
Ça, c'est une nouvelle extraordinaire. Honnêtement, il faut donner du crédit à Bettman. Dans une année de pandémie, là, il a réussi à aller récupérer ESPN à gros coup, 400 millions par année. Puis là, il présente Turner dans le hockey. Paul, la dernière fois que Turner était dans le hockey, c'est quand les Flames d'Atlanta jouaient. Ça, c'est et dans les années 70.
Ah oui, à l'époque de CNN et tout. Ouais, ouais,
exact.
Ouais.
Ah non, puis c'est loin, là. Fait qu'il a ramené Turner, ils ont dépensé plus d'argent qu'NBC. Un, c'est dommage de perdre NBC, qui a vraiment, vraiment fait une bonne job de sauver le hockey aux États-Unis sur le côté télé. Mais Turner, je pense que ça va être un vent de fraîcheur. Je pense qu'ils vont innover. Je pense qu'ils vont apporter du bon contenu. Je pense à l'importance pour eux de rajeunir puis de connecter avec une génération, une démographie plus jeune.
Ils sont déjà dans le basket, eux autres, là.
Oui, puis dans le baseball, puis dans le March Madness. Alors, ils sont impliqués. C'est un bon ajout à leur portfolio de sport. Ils vont payer 225 millions par année. Bettman, là, va faire la job là, pour 645 millions seulement des diffuseurs US. Alors, dans une pandémie, là, bravo. Il y a Seattle qui rentre dans la Ligue cette année à 650 millions. Alors, il a réussi à trouver de l'argent qui n'existait pas, puis de mettre ça sur la table. Turner va diffuser la classique hivernale. Ils vont diffuser les finales de la Coupe cette année 3 ans sur 7. C'est un complément parfait. Je vais juste donner une comparaison d'ordre de grandeur. ESPN et Turner sont aussi les deux diffuseurs de la NBA. Alors, ce sont les mêmes. Pour la NBA, ils payent 2,6 milliards par année. Pour le hockey, ils vont payer 645 millions par année.
Et on dit que c'est la raison pour laquelle NBC s'est retiré, parce que le nouveau contrat qu'ils ont avec la NFL, c'est des milliards de dollars. Semble-t-il qu'ils auraient présenté une offre inférieure aux 200 millions qu'ils payaient dans le contrat précédent.
Oui, mais ça, c'était une offre pour un peu closer le dossier, là. Ça voulait dire qu'ils avaient abandonné la course, là. Honnêtement, je pense qu'NBC, on peut pas leur en vouloir, là, mais il manque d'argent. Là. Parce que là, tu as dépensé sur la NFL deux fois le prix, tu as dépensé sur la Premier League, tu as les Jeux olympiques, c'est encore difficile. Puis là, il manque d'argent, fait qu'ils ont décidé de laisser aller ça. Puis ils voulaient plus être le, ils voulaient pas être le second à ESPN. Pour le hockey, pour l'industrie, c'est excellent.
En parlant de dépenser, là, il faut que je te pose la question. Une franchise, on dit bien une franchise au baseball majeur, on pense Montréal, là.
Ouais.
Au-delà de 2 milliards, d'après le commissaire. 2,2 milliards, pour être précis, là.
Oui. Ben, Paul, tu le sais, on a traité le sujet de baseball à maintes reprises. Il faut pas avoir peur de dépenser des grosses sommes d'argent si on veut rentrer avec les gros joueurs. Alors, la moyenne d'une franchise de baseball, c'est exactement 2,1 milliards. Fait que, pense pas que Rob Manfred va prendre une nouvelle équipe un jour en acceptant moins. Son travail à lui, c'est justement de pousser ça vers le haut. Parce que lui, c'est de créer de la valeur pour les autres propriétaires. Plus il charge cher, ben, plus les autres s'enrichissent. Alors, c'est comme Seattle. Vegas rentre à 500 millions, puis moins de 2 ans après, Seattle rentre à 650. Le prochain, là, quel qu'il soit, ça va être 750, 850 facile. Pourquoi? C'est la loi de la nature. C'est la loi de la jungle là-dedans. Tu rentres trop tard, tu payes plus cher. On avait un club de baseball, Paul, à l'époque, si tu te rappelles, en 2004. C'est pas si longtemps que ça, là. Puis là, aujourd'hui,
mais
on avait un autre.
Les investisseurs, là, les Bronfman, Mitch Garber et les autres...
Mais ça, c'est pour un club d'expansion.
Ça, c'est un club d'expansion.
Oui, non, avec mais... Raze, là, c'est peut-être
non,
pas,
non,
avec
ça, je comprends, mais pas, si jamais on veut un club à nous, flambant neuf à Montréal,
ouais,
là...
C'est ça.
Penses-tu qu'ils vont embarquer là-dedans à ce prix-là?
Ben, 2,2 US plus le stade, plus un centre d'entraînement, plus une masse salariale de 125 millions, Paul. On est dans le 3,5 à peu près, là.
Ça, c'est le bout de papier, là. C'est juste pour dire que t'as un club dans la ligue, là.
Ouais, ouais, non, mais c'est gros. Mais l'argent est au rendez-vous, par exemple. Les droits, le retour sur l'investissement, c'est juste que ça coûte très, très cher. Faut que tu sois prêt à dépenser beaucoup. Puis en plus, il faut que tu le rentabilises, mais il faut que tu le fournisses. Fait que, il faut que, tu sais, l'expression cash call, là. Faut que t'en sortes de l'argent, là, pour faire vivre ton club puis pour que tu sois compétitif. Alors, c'est pas la fin des dépenses, là. Je sais pas s'ils vont être au rendez-vous, Paul. C'est cher, là.
Ben, et puis, il y a bien d'autres aussi. Un homme a besoin d'argent. Ça se donne que j'en ai un petit brin, là.
Hey, Ray, j'ai une question à venir sur le hockey. Étant donné que là, le plafond salarial est fixe pour les prochaines années, là. Oui. Mais avec les nouveaux revenus générés, est-ce que tu penses qu'ils pourraient augmenter?
Pas dans les prochaines années. Ça fait partie un peu de quelque chose qu'ils ont voulu là, fixer là, pour restabiliser le hockey, rendre les franchises un peu plus rentables, là, Alain, parce qu'ils ont perdu de l'argent. Là.
Ouais.
Puis il y en a qui souffrent beaucoup, puis il n'y a encore pas de billets cette année ou presque, surtout pas au Canada. Fait qu'ils vont se servir de cet argent-là pour se resserrer un peu puis cimenter un peu leur structure. Mais ça va augmenter un jour bientôt, puis on va être, on va être là à cause des revenus... des droits médias qui auront augmenté.
Merci, monsieur. Bonne journée.
Bonne journée, monsieur.
Au revoir. 8h35. 2,2 milliards. Pas de stade, pas d'équipe.
Non, c'est...
Le papier qui confirme que tu as le droit d'avoir un stade et une équipe
c'est
de la Ligue nationale.
Bravo sur le papier. Vous êtes maintenant détenteur d'une franchise dans le baseball majeur.
Maintenant, arrangez-vous.
Bienvenue. Et le premier paiement est dû pour telle date.
Voilà. Bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est au Canadien, là. Mais c'est vrai que c'est un nouveau concept qui s'exporte. On va aller voir ce qui se passe sur la 13. Nos commissaires s'en viennent.